Doch sabes notar, sabes sacar, sabes fascist. On s'est belle et occidentale. Quand ton mental faisait ses causes. Quand ton mental faisait des roses. Quand ton mental faisait grosse cause. S'est imposé. Les militaires sont au pouvoir. Dans les camps, y'a de bon à voir. Service torture, service nada. Torture mentale, physique, c'est cause. Torture mentale, physique, névrose.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme quasiment toutes les semaines. Bonjour, et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler du monde merveilleux du travail au sein des hôpitaux psychiatriques et des institutions psychiatriques. Avec un ami qui est venu nous voir, Daniel. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Alors, c'est avec toi qu'on va un peu raconter tout ça. Auparavant, je vais peut-être vous lire une petite info, enfin un article. Un article qui n'est pas complètement sans lien avec ce dont on va parler. C'est un article du Canard Enchaîné du 24, voilà, du 24 mai, du 24 mai 2023, intitulé « Sainte-Anne diagnostique un petit coup de folie à l'Académie française ». Alors, je lis l'article. L'élection du psychiatre Raphaël Gaillard à la coupole réjouit ses collègues de l'hôpital parisien, ravis de le voir prendre du champ. La coupole s'est offert un Benjamin Trévert à 47 ans, Raphaël Gaillard, qui depuis 2011 dirige le pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne et de l'université Paris-Cité, a été élu le 25 avril plus jeune immortel à la place de Giscard, ex-président de la République. En 2022, l'auteur d'Un coup de hache dans la tête, Folie et créativité, chez Grasset, avait opportunément reçu des mains d'Hélène Carrère-Dancos le prix Jacques de Fouchier décerné par l'Académie. Il connaissait feu le secrétaire perpétuel, il avait soigné son fils Emmanuel à Sainte-Anne, comme le raconte ce dernier dans Yoga, POL 2020. Il se dit par ailleurs ami avec Florence Delay, Frédéric Vitoux et Jean Clair. C'est issu du Figaro du 10 mai. Chaque année, il soigne les académiciens en les invitant au congrès de l'encéphale qu'il dirige. Gaillard a bien préparé son coup de hache sur la coupole. Mieux en tout cas qu'Isabelle Autissier, qui avait aussi des vues sur le fauteuil. La navigatrice romancière s'est sabordée en bâclant en 10 lignes d'une élève digne d'une élève de CM2, selon le mot d'un destinataire, sa lettre protocolaire aux immortels. Un vrai naufrage. L'élection de Gaillard a fait beaucoup d'heureux chez ses collègues psychiatres de Sainte-Anne. C'est notre seule chance de nous débarrasser de son joug, et tant pis pour l'Académie française, se réjouit un médecin. Un autre, qui se garde bien en tant que psychiatre de diagnostiquer le professeur Gaillard, décrit sans retenue un homme parano, condamné à la folie, mégalomane, sujet à des bouffées délirantes et professant un mépris pour tout ce qui n'est pas de lui. C'est beau la confraternité. Tous les toubibs du prestigieux Hosto réclament l'anonymat pour dresser le portrait du nouvel académicien. En parlant, je risque ma peau. Il a construit sa carrière médicale comme une carrière politique, s'inquiète une prof. Gaillard a de l'entregent. Il préside la fondation Pierre Deniker pour la recherche et la prévention en santé mentale, est vice-président du conseil départemental de l'Ordre des médecins de Paris et chevalier de l'Ordre national du mérite. En 2011, il a rendu à Valérie Pécresse, alors ministre de l'enseignement supérieur, un rapport sur l'évolution du statut hospitalo-universitaire. Il a été reçu à plusieurs reprises par Brigitte Macron et un ex-ministre de la Santé confirme au Canard Enchaîné qu'il est un interlocuteur privilégié du ministère. Raphaël Gaillard se vante même au point, 7 mai, d'avoir refusé d'intégrer plusieurs cabinets. Il manquerait plus qu'il raconte avoir soigné Macron. Médecin sous camisole. L'homme, on l'aura compris, a aussi pas mal d'ennemis. Je ne connais pas un psychiatre qui ne soit pas gravement fâché avec Gaillard. Les médecins partent alors que les patients ont besoin de stabilité, diagnostique un médecin de Sainte-Anne. Depuis son arrivée à la tête du pôle, 5 chefs de service ont fait leur carton. L'une d'entre eux a même été exfiltrée, entre guillemets, avec son équipe après un conflit avec lui. À la suite d'une engueulade devant témoins, sa remplaçante a connu le même sort. Une enquête interne a été lancée, dont les conclusions sont restées au placard, l'administration jugeant que le professeur Gaillard exerçait simplement un management un peu rugueux. Moins pudique, d'autres dépeignent un homme violent, vindicatif, harcelant, capable d'user de méthodes de voyous. On se planque tous en attendant d'avoir la possibilité de témoigner un jour devant un juge, confie un toubib. Gaillard a d'autres antécédents à son actif. À l'automne 2019, une patiente de Sainte-Anne harcèle son épouse. Inquiet, le psychiatre tente en toute illégalité d'accéder à son dossier médical et de la faire hospitaliser sous contrainte. Libé, 10 février 2021. Il inonde de mails le service du docteur Marcel, qui a la charge de la patiente, et remet en question son expertise. La campagne de dénigrement ainsi orchestrée aura raison de la prolongation du docteur Marcel dans ses fonctions. Un assassinat professionnel, écrit l'un de ses collègues à la direction. En 2021, le dit docteur meurt subitement, donc le docteur Marcel, à 67 ans. Son frère, Dominique, ancien directeur de cabinet de Martine Aubry au ministère du Travail, réclame une enquête à l'hôpital, à l'agence régionale de santé et au ministère concerné. Peine perdue. Depuis, les médecins de Sainte-Anne travaillent un peu sous camisole de force. L'intéressé n'a pas répondu au canard. Ses proches fustigent la jalousie des confrères face à la réussite. Peu lui en chaud, le voici désormais académicien. Les coups peuvent pleuvoir, il est immortel. Alors, il y a un commentaire de André Bitton du CRPA sur cet article. Le docteur Raphaël Gaillard, très introduit dans les sphères de pouvoir, a terrorisé son monde dans cet hôpital psychiatrique depuis plusieurs années. Il est un des représentants du courant scientiste qui est devenu le courant dominant de la psychiatrie française actuelle. En ce qui concerne notre association, le CRPA, nous en avions entendu parler par une affaire concernant l'ancien chef de pôle du 5e arrondissement de Paris, le docteur Marcel, décédé prématurément en 2021 à l'âge de 67 ans. Ce décès s'inscrivant, semble-t-il, en conséquence d'un conflit qui l'opposait au docteur Raphaël Gaillard à propos d'une des patientes du docteur Marcel qui avait harcelé la femme de ce psychiatre réputé désormais promu à l'Académie française. Voilà. Bon, eh bien, voilà, nous allons passer à ton interview, Daniel. Donc, comment te présenter? Tu as eu un parcours universitaire à Paris 8 à Vincennes pour commencer, et puis à la fac Paris 7
de Jussieu.
Jussieu, en psycho.
Voilà.
Et à cette époque, il y avait un certain contexte autour de, par exemple, la psychanalyse.
Oui.
La psychanalyse est considérée comme révolutionnaire. Est-ce que tu peux nous...
Ouais, alors voilà. Alors juste avant,
oui, vas-y,
sur ce que tu viens de dire, j'ai quasiment un effet, l'article que tu viens de lire qui me crée quasiment un effet d'inquiétante étrangeté, tellement j'ai l'impression, quand tu parles de cette intrication du pouvoir de la psychiatrie là, et du management, oui, j'ai l'impression véritablement d'avoir vécu cela très intensément. Mais j'y reviendrai. Alors oui, pour ta question, j'ai commencé il y a un certain temps maintenant, à Paris 8, dans un UFR où effectivement la psychanalyse était enseignée par des professeurs. Là, je parle pas de l'UFR de psychanalyse, j'étais en philosophie. Et la trace de Freud, de Lacan, de Klein, était très forte chez les philosophes, beaucoup anciens, althusseriens, certains, bon, sur un mode critique, proche de Deleuze, enfin, avec cet héritage un petit peu. Mais enfin, critique ou pas, la psychanalyse restait encore étudiée, travaillée, argumentée, comme une sorte d'outil critique, vis-à-vis de la psychiatrie. Donc je pousse en quelque sorte, je fais mes premières années à la fac, avec cette idée-là, un peu idéal d'une psychanalyse, insurrectionnelle presque. Bon. Ensuite, je passe, parce qu'il faut bien trouver un boulot à un moment, je bascule de façon un peu comme sur le mode du passage à l'acte, je bascule en psychologie et je m'oriente sur Paris 7, qui avait, voilà, je pense que c'est la fac où l'élément, enfin, en tout cas à l'époque, je parle de ça il y a 15-20 ans, la psychanalyse était très, très dominante. Bon, j'arrive là-bas, c'est le contexte de la, je crois qu'on est en 2005, 2003, 2004, je sais plus. Bon, une première chose que je constate, c'est que la dimension politique est totalement absente de la fac. Bon, oui. L'héritage analytique des années 70, l'héritage analytique et analytico-politique a complètement disparu. C'est devenu une fac comme les autres, presque un clergé. Il y a des chapelles analytiques, les freudiens s'affrontent aux lacaniens, il y a le quatrième groupe qui tire la bourre sur les winnicottiens, enfin bon. Mais si tu veux, sur le plan politique, c'est vide, c'est tiède, voilà.
Hein,
voilà. Et moi, je passe mon diplôme comme je peux, bon. Et puis, ce que je constate encore une fois, c'est que politiquement, c'est nul. C'est à la limite, c'est les droits de l'homme. Voilà, c'est ça qui domine. C'est-à-dire ce qui est opposé, si tu veux, à la violence. Le grand truc, c'est puisque le grand truc, c'est quand même de pointer la folie du côté de l'intégrisme. Enfin, tu vois. Enfin, j'essaye de. Moi, je cherchais un petit peu un point d'ancrage, soit sociologique, soit politique. Je le trouve pas. Bon, j'obtiens mon diplôme et je me lance sur le marché du travail.
Oui.
Voilà.
Et donc tu as cherché à exercer
tout de suite en tant que psychologue clinicien. Ouais.
Oui,
voilà. Alors j'étais intéressé par la psychiatrie adulte. Voilà, je voulais aller travailler sur le terrain, donc j'ai tout de suite trouvé. Alors, avant de te raconter un petit peu en détail comment ce que j'ai observé dans le contact avec les patients, je vais juste te résumer le parcours que j'ai fait, qui est assez pathétique.
Mais...
Donc, je suis arrivé dans un hôpital de banlieue assez connu, hôpital général, où il y a un secteur psychiatrique. Alors, moi, j'arrive en 2009. Hein, on est dans les années Sarkozy encore. Bon. Alors, ce que je constate tout de suite, hein, c'est que voilà, les noces du management et de la psychiatrie sont extrêmement présents. Hein, c'est très fort.
D'accord.
Mais cet hôpital m'intéresse pour une raison, c'est que le bâtiment où j'arrive s'appelle Ferenczi. Donc, je sais pas si tu vois Ferenczi.
Oui.
Ferenczi s'appelle comme ça. Hein, alors, je sais pas s'il s'appelle alors, encore comme ça.
On peut préciser quand même que Ferenczi,
voilà,
c'était
le concepteur, enfin, si tu veux,
concepteur
à l'époque.
De la psychanalyse.
Voilà, ouais, Ferenczi, c'est celui qui théorise, qui thématise la notion d'empathie. Voilà, l'empathie et le tact comme axe directeur du soin. Donc, je me dis, waouh. Alors, il y a. C'est très clivé. c'est pas un trait d'humour, ça, le service est clivé, quoi. Il y a d'un côté la psychiatrie adulte, de l'autre la psychiatrie adolescent à l'époque. Moi, je dis, waouh, j'arrive dans le service de Ferenczi. Bon, je me dis, super, quoi, axe, empathie. En plus, on me pose des questions en entretien, on me demande si je suis en analyse. Enfin, j'ai l'impression que quand même, il y a une exigence de ce côté-là, une psychodynamique. Et puis alors, je suis moitié sur la psychiatrie adulte, moitié mon poste, hein, se divise en psychiatrie adulte, psychiatrie adolescent. Bon, alors je déchante tout de suite sur un point du côté des adolescents. Donc je suis dans un secteur qui est un peu qui est très lumpen, quoi. Hein, c'est un hôpital de banlieue. Bon, population subsaharienne, c'est comme ça qu'ils parlent des autochtones, des gens de la zone, quoi. Et si tu veux, bon, c'est précarisé, quoi. Tu vois, c'est le sous-prolétariat. Bon, la première chose qu'on me dit, c'est de ne pas manger avec les infirmiers. C'est-à-dire, ma chef de service, la première chose qu'elle me demande, elle me dit, attention, bon, tu arrives là, bon, je te vois là, tout de suite, parce que moi, je sympathise tout de suite avec les aides-soignants, les infirmiers. On me dit, non, toi, tu manges pas avec les infirmiers à table. C'est-à-dire que il y a comme ça, tout de suite, une mainmise autoritaire, tu vois, mais qui est rationalisée sur un mode théorique. C'est-à-dire qu'on ne me dit pas qu'en fait les infirmiers, c'est eux qui font grève et qui tiennent les murs. Hein. Tu t'imagines, la chef de service me dit, psychiatre, elle me dit, tu comprends, t'es détenteur d'un savoir. Ce savoir, c'est un peu comme les couches stratifiées d'un oignon, tu vois. Alors je me demande si ça fait pleurer et ça pique, tu vois. Mais on me dit, oui, tu comprends, c'est important que quand même... Bon, on me demande de faire allégeance au corps médical, tu vois. Donc ça commence mal. Donc t'imagines que je ne fais pas allégeance. Donc je suis un peu... Voilà,
tu tombes dans un monde très hiérarchisé déjà.
Hyper,
quoi.
Hiérarchisé, ouais. Quoi. Avec vraiment l'impression un peu angoissante que le savoir et le pouvoir, là, ça veut dire la même chose. Quoi, hein.
Oui.
Donc alors, pour te dire le truc, je pense que tu dois savoir, mais dans les services de psychiatrie, bon, tu as deux choses. Comme tu as des lits, hein, tu as des lits d'hospitalisation, tu en avais, dans mon souvenir, 10-15 chez les ados et 20 chez les adultes. Tu as les transmissions le soir et le matin, tu vois, les infirmiers qui font des retours. Et puis, tu as chaque semaine ce qu'on appelle la réunion institutionnelle. Alors, c'est intéressant parce que la réunion institutionnelle, normalement, est un temps élaboratif qui, sans remonter jusqu'à Toscaïès, quoi, est quand même un temps où, normalement, bon, tu ne fais pas simplement de contrôler, tu vois, l'état d'agitation ou de sédation du patient. Tu es censé aussi de comprendre et examiner ce qui, chez chacun d'entre nous, soignants, éprouvons vis-à-vis du patient, et puis, sans aller jusqu'à soigner l'institution parce qu'ils n'en sont pas là, mais au moins confronter nos points de vue, nos ressentis, et c'est de construire quelque chose comme une représentation affinée.
Entre personnel soignant seulement ou
voilà. C'est-à-dire que normalement, ça devrait être ça, une réunion institutionnelle. C'est-à-dire psychomotricien, ergothérapeute, psychologue, psychiatre, d'accord, infirmier. Normalement, on devrait être censé, tu vois, travailler. Voilà, alors je dis, parler de contre-transfert, c'est bien chimérique encore. Mais disons qu'au moins, on est censé... On peut avoir l'impression qu'en fait... il s'agit de parler des patients, voilà. Mais c'est pas du tout ça.
Oui.
C'est-à-dire que les réunions institutionnelles, c'est quand même une parole qui domine, la parole du psychiatre, la parole du chef de service ou de la chef de service. Et puis, tu vois bien une violence symbolique extrêmement massive, hein, c'est-à-dire que les autres ne prennent pas la parole. Enfin, il y a une sorte de terreur qui est là. Tu sens qu'il y a une sorte de parole qui fait autorité, etc., etc. Donc moi, je fais une connerie, enfin d'entrée, quoi. Tu vois, c'est que je pose des questions. Mmh. Je pose des questions, mais visiblement, c'est pas les bonnes questions, tu vois. Je demande, par exemple, je commence à mettre en doute le diagnostic, tu vois. Je me demande s'il est pas posé un peu trop vite, tu vois. Vu que quand même, enfin, la mode à l'époque, je pense pas que ça a dû évoluer beaucoup. C'est de poser des diagnostics en moins de 3 minutes, quoi. Hein, tu vois. Enfin, je ne caricature pas, hein, tu vois. C'est-à-dire que la nomenclature psychiatrique permet comme ça de détecter. Enfin, t'as vraiment l'impression que c'est. Voilà, t'as quelques signes et tu ouais. poses un diagnostic. Ouais,
c'est un diagnostic décision.
Décision, exactement. Ah, alors, voilà. Et puis, alors là, je parle de mon passage chez les adolescents. Au psychologue, à l'époque, il était demandé une chose essentiellement, c'est de faire passer des tests. Alors, notamment un test absolument fastidieux, pour moi fastidieux, très opératoire, qui est le WISC, espèce de test d'intelligence censé mesurer un peu les capacités cognitives. Bon, je t'avoue que bon, ça a été pour moi extrêmement pénible. Et puis toute la relation, enfin, si tu veux, en plus, je trouve que ce sont des choses qui font écran avec le patient, enfin, qui empêchent un lien vivant. Bon, j'ai essayé très vite de me casser, quoi, de ce service, ce qui n'a pas été simple. Pour moi, enfin, on m'a un peu pourri la vie, tu vois, parce que je trahissais quelque chose. Bon, j'avais commencé à trahir en mangeant avec les aides-soignants, les infirmiers déjà. Hein, j'étais un peu.
Oui.
Voilà, j'étais un peu un mauvais objet. Et puis, donc, bref, je me retrouve, au bout d'un an, disons, je me retrouve donc exclusivement chez les adultes.
D'accord.
Bon, chez les adultes, je m'aperçois assez vite que. C'est encore pire. Oui. Là, je suis sous la coupe d'un psychiatre. Alors, d'abord d'une chef de service qui ressemble beaucoup à ce gaillard dont tu parles, là, ce chef de service extrêmement autoritaire, mégalomane, caractériel, effroyable. Moi, je suis arrivé, en fait, et je l'ignorais à l'époque. Ce que je vais dire est assez horrible. Je remplaçais, en fait, j'avais la place du mort. Je remplaçais une psychologue qui s'était pendue chez elle. Psychologue. Bon, de cela, rien n'était dit. Hein. Mais il y avait quand même une présence spectrale, quelque chose d'extrêmement lugubre. Bon, c'était une femme qui s'était suicidée, parce que le suicide est très massif dans cet hôpital, et qui était harcelée par cette chef de service, cette chef de pôle.
D'accord, oui, je pensais à ça, du harcèlement moral au sein
harcèlement moral, voilà, tu vois.
Au sein de la structure.
Bon, moi, cette chef de pôle est restée un an encore, et puis elle est partie à la retraite. Elle a été remplacée par son dauphin, un jeune psychiatre d'une cinquantaine d'années. Totalement pervers, et alors lui qui a fait régner un climat qui règne encore, absolument délétère, divisant les gens. Bon, alors, juste, moi ensuite, je vais essayer d'abréger avec le parcours, mais disons que là, moi, en fait, on m'a changé de service en service, parce qu'à chaque fois, encore une fois, je posais des questions. Par exemple, dans les réunions institutionnelles, j'essayais de faire circuler la parole, de donner la parole aux infirmiers et aides-soignants, qui sont ceux qui voient le plus les patients quand même, hein, tu vois. Ni psychiatre, ni psychologue, on peut dire, ne voient les patients tout le temps. Ce sont les aides-soignants, les infirmiers. Une des premières choses qui m'a été dit, c'est que je maltraitais les infirmiers parce que je leur donnais la parole, tu vois.
Oui.
C'est le chef de service qui disait
d'accord.
Ça. bon. Donc, on m'a déplacé pas mal de service en service. Une deuxième chose, ce qui pour moi était très traumatique, c'est le nombre constant de suicides. Suicide de patients, suicide de soignants aussi, mais suicide de patients, tu vois. Bon. Par exemple, je crois que ça devait être vers 2013, t'as une patiente qui arrive dans un état d'épuisement professionnel et de maltraitance, de conjugopathie, de maltraitance conjugale, extrêmement épuisée et désespérée. Et, bon, elle fait une tentative de suicide dans le service. Bon. J'oublierai jamais, pendant la réunion, elle était là depuis à peine 48 heures, elle est en chambre d'isolement, c'est-à-dire que t'essaies de te suicider, on t'attache. Hein,
tu oui,
vois. Donc elle est en chambre d'isolement, elle fait une phlébotomie, elle essaie de se trancher les veines. En réunion, le chef de service apprend ça, psychiatre. La première chose qu'il dit, c'est « Waouh, elle a fait ça, c'est très agressif à notre égard. Faites-la sortir immédiatement. » Alors je m'indigne, je dis « Mais attends, et si elle se tue ?» Et le psychiatre m'a fait une réponse édifiante en me disant « Mais enfin, avec très pervers, mais enfin, tu sais, la vie c'est dur. » Voilà, la vie c'est dur. Donc cette patiente, bon, tu comprends, ça fait... Ça fait tâche quand même si elle se tue dans le service. Donc elle est éjectée Donc cette patiente que j'ai réussi, c'est miraculeux, à l'orienter ailleurs sur un autre service à l'extérieur, bon, elle a été gardée 6 mois tellement son état était jugé inquiétant. Mais c'est pour te dire le cynisme, voilà. Mmh. Le cynisme de, enfin, des gens qui, pour lesquels je bossais, quoi. Mmh. Bon, ça a été comme ça beaucoup, tu vois. Il y a eu en 2017 un suicide d'un jeune neuropsychologue de 34 ans qui était en gériatrie dans l'hôpital. Bon, moi, j'étais, tu vois, j'avais un éclairage, tu vois. J'avais, enfin, c'est pas un éclairage théorico-pratique, mais si tu veux, pour moi, après, bon, c'était un jeune neuropsychologue qui était maltraité, harcelé par le service, tu vois, par la direction de l'hôpital, qui était effectivement très managériale. Bon, moi, j'ai essayé de réunir quelques collègues, leur dire, bon, là, ça va pas, là, faut se réunir, faut aller voir ce chef de pôle, faut aller voir le directeur de l'hôpital, tu vois. Et on m'a dit, tais-toi, c'est lui qui harcelait ses collègues. C'est-à-dire, le mec, il s'est tué, mais c'est lui qui harcelait ses collègues, tu vois. Bon, ce que j'ai vu, pour terminer sur ce point, c'est extraordinaire lâcheté, si tu veux, des psys avec lesquels je bossais, tu vois, qui sont comportés dans ce que j'ai vu, moi, comme les bons soldats, tu vois, les bons soldats d'une bureaucratie, tu vois, autoritaire, et un état de choses, une rationalisation constante, si tu veux, des pratiques venues d'en haut. Quand je dis rationalisation constante, c'est-à-dire que, bon, par exemple, la T2A s'accélère, elle hante vraiment. Alors, elle n'est pas, le mouvement de reptation de la psychiatrie n'est pas officiellement trompé.
T2A, tarification à l'acte.
C'est-à-dire faire le plus en plus d'actes. Bon, autant il y a 2 siècles, tu vois, tu rentrais à l'asile, tu vois, exemple Camille Claudel, Séraphine de Senlis, tu savais pas quand tu sortais. Autant depuis 2004, tu vois, 2006, 2008. Si tu veux, le but, c'est de rentrer, de sortir. Ça fait des actes, donc ça fait du pognon, tu vois. Mmh. Bon, bah, si tu veux. On fait sortir des patients dans des états catastrophiques qui auraient besoin de soins. Si tu veux, cynisme absolu.
Oui, ils sont, tu vois, du service.
Ouais, non, mais c'est comme ça, quoi. Ouais, tu vois. Ouais. Donc moi, c'est ça que j'ai vu. J'ai vu aucune capacité de révolte. Ce qui me touchait, moi, pour un petit retour en arrière, quand j'étudiais Freud à la fac, c'était que pour Freud, si tu veux, d'une certaine manière, la santé psychique se définit aussi, d'une certaine manière, par la conflictualité. C'est-à-dire une conscience conflictualisée, voilà, si tu veux, la conflictualité psychique, c'est aussi un signe de bonne santé, c'est aussi une capacité de remise en question, tu vois. Bon, donc pour moi, sur ce modèle-là, on pouvait tirer une sorte, en forçant un peu le trait, on pouvait tirer un peu des conclusions libertaires. C'est-à-dire, je me dis, dans une réunion, dans un hôpital, après tout, c'est ce que Toscaïès préconisait, analyser l'institution, tu vois. Eh ben, être dans ce conflit, dans une dissensualité, c'est ce qui peut faire avancer les choses. Nada, tu vois, tu vois, consensualité bienheureuse, tu vois. Ce qu'il faut, c'est le consensus, tu vois. Et le consensus est évidemment imposé souvent par le psychiatre, enfin, par le chef de service, quoi. Avec, dans ce que j'ai vu là-haut, dans ma trajectoire, avec le consentement désolant de mes collègues psychologues, quoi. Et toujours cette, alors ça c'est un peu le cynisme supplémentaire, c'est la nomenclature psychiatrique qui permet en plus de valider, tu vois, les choses. Je te donne un exemple. Le nombre de collègues que j'ai vus se révolter, mais s'effondrer en dépression, des collègues à moi, une collègue psychiatre, une collègue, beaucoup de collègues infirmières. Bon, si tu veux, tu as des, on va dire que par exemple, elle ne s'adapte pas, elle est sensitive, ou elle est paranoïaque, enfin, ce qui est un peu la même chose. Si tu veux, si par exemple tu te mets en colère, alors là, on va te traiter de revendicateur, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que, mais par exemple, la perversité n'est jamais interrogée. Bon, j'avais un chef de service très très pervers, mais je pense que le gars dont tu parlais là rentrerait tout à fait. On pourrait aussi parler de, tu vois, ce qui fait l'absence de culpabilité et l'impulsivité, qui rentre dans la catégorie un peu obscure quand même, mais parlant de psychopathie, me fait penser que beaucoup des psychiatres que j'ai rencontrés l'étaient, quoi. C'est-à-dire tout puissant. Avec ce fameux partage entre raison et déraison qui a été reconstitué là où Freud l'avait détruit, puisque pour Freud, la différence entre normal et pathologique n'est que quantitative et pas qualitative. Bon, là, j'ai eu l'impression que vraiment mes collègues, dans les réunions, tu vois, c'était... Il y a les dingues d'un côté, et puis de l'autre, il y a nous, quoi. Je ne sais pas si c'est assez clair. Hein.
Oui, c'est vrai qu'il y a une barrière qui est créée par l'institution, entre les uns et les autres. Oui.
Tout à fait.
Alors que, justement, ce sont, oui, alors, qualitatif, quantitatif, oui, c'est tout ça, ça mérite d'être développé, parce que bon, entre le normal, le pathologique, oui, etc., on n'a pas le temps tout de suite. Oui.
Bon, j'ai terminé juste pour le parcours, hein, pour dire que voilà, bon, oui, juste sur la fin, en 2020, bon, il y a le Covid. Moi, je suis tombé malade, hein, 5 mois en arrêt. Bon, je t'avoue que j'étais un peu exténué, mais 5 mois d'arrêt. Quand j'ai voulu reprendre mon poste, j'avais des prises en charge, des psychothérapies, tu vois, je voyais beaucoup de patients qui me décrivaient, je les voyais ce qu'on appelle en ambulatoire, en centre médico-psychologique, parce qu'on m'avait quand même éloigné un peu de l'intra-hospitalier. Je faisais des vagues, donc on m'avait mis un peu plus loin dans un centre médico-psychologique. D'accord. Ils ont une dizaine de kilomètres de là, tu vois. Et en fait, je recevais beaucoup de patients qui avaient été eux-mêmes hospitalisés, qui me décrivaient en fait les procédés assez coercitifs. D'accord. Tu vois. Bon, mais j'avais des, je dis procédés coercitifs, c'est-à-dire, faut savoir comment ça se passe, hein, quand t'arrives aux urgences. Tu vois, parce que t'es pas bien, bon, c'est pas terrible, hein, tu vois. Bon, je me souviens d'une patiente qui me décrivait comment on l'avait dessapée, attachée, pas vraiment écoutée, enfin bon. Je crois que là, on pourrait parler de iatrogénèse, hein, tu vois. C'est-à-dire comment les conditions d'hospitalisation aggravent.
Oui.
Là, je te parle d'une psychiatrie de pauvres, hein. Je te parle pas, bien sûr, des cliniques privées de luxe où c'est super cool, quoi, tu vois. Bon, et ben, donc, en 2020, je tombe malade et quand je vais revenir, on me dit non. Enfin, c'est comme si c'était une faute d'être en arrêt maladie, tu vois. Donc tu reviens pas au CMP, mais j'avais beaucoup de prise en charge. Et là, on m'a remis dans un placard, on m'a mis dans un autre service encore. Bon. Et bon, je me suis barré parce que ça devenait assez insoutenable pour moi. Enfin, j'ai l'impression que j'allais crever comme beaucoup de mes prédécesseurs, tu vois. J'ai juste demandé à pouvoir dire au revoir aux patients que je suivais, bon, ça m'a pas été possible, tu vois. Parce que le directeur de l'hôpital m'a dit non. Bon, c'est une violence supplémentaire, hein. Violence pour les patients, violence pour moi, et donc je me suis barré comme ça. Bon, voilà, juste pour, je voulais pas mettre la focale là-dessus, mais maintenant, si tu veux, je peux te décrire un peu ce que j'ai observé, si tu veux, dans le lien direct, plus affiné dans ce que j'ai observé. Hein.
Voilà. D'accord.
Ouais. Bon. Bon, déjà, voilà, ce que j'ai vu, c'est que, tout à l'heure tu parlais, hein, enfin on a évoqué le management, ce que j'ai vu, moi, c'est que le soin est impossible, le soin psychique, enfin si ce mot peut avoir un sens, est rendu impossible, en tout cas actuellement.
Dans un tel contexte,
on peut parler que d'une chose, c'est d'une turbo-psychiatrie, tu vois, c'est-à-dire aller le plus vite possible. D'accord. Le nombre de patients, de patientes que j'ai pu voir arriver, si tu veux, mais qui n'étaient pas écoutés, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas écoutés. Ils arrivent, alors, tu sais, t'as des mots valises qui fonctionnent très bien. Par exemple, troubles de la personnalité, tu vois. Il faut savoir que les grandes entités, tu vois, mélancolie, hystérie, tout ça, ont été complètement démantelées. Mm-hmm. Donc, l'approche multiaxiale, tu vois, DSM, SIM-10, etc. Tu vois, enfin, tout a été démembré, si tu veux, mais je suis pas sûr qu'on ait gagné au change, hein, tu vois. C'est-à-dire que l'essentialisation demeure. Tu vois, par exemple, trouble de la personnalité, tu vois, ça veut dire, bon, on n'a pas le temps, mais si tu veux, il faudrait revenir et s'attarder là-dessus, tu vois.
C'est déjà incurable.
C'est déjà, oui, c'est fou. Ce que j'ai vu, c'est des patients arriver, mais je t'assure, en moins de... mais de quelques minutes, quand c'était pas quelques secondes dans les salles de transmission, avant, j'ai vu, voilà, des psys, mais alors après, si tu veux, c'est intériorisé par l'équipe soignante elle-même, c'est-à-dire que dire psychotique, tu vois, ah, psychotique, ça arrive tout de suite, psychotique, il est fou, il est dingue, ah oui, alors il y a des phrases, l'immense paternalisme, l'immense condescendance des soignants, des équipes soignantes vis-à-vis des patients, c'est-à-dire t'as une personne qui arrive dans un état d'admission massive, on le serait à moins, hein, tu vois. Faut voir les hôpitaux, quoi. Faut voir le secteur où je bossais. C'est-à-dire, tu te demandes s'ils ont fait exprès pour que ce soit aussi laid, tu vois. Aussi sinistre. C'est vraiment sinistre, quoi. Je veux dire, t'arrives là-bas, t'es sidéré, hein. Y a pas de problème. Donc, bref. Personne de petit niveau. Je me souviens, ça, tu vois, ça arrivait, hein. Petit niveau pour dire qu'elle est complètement débile, quoi. Les moqueries, les railleries, tu vois. Les jugements, le moralisme. Moi, je pensais que c'était un truc d'un autre âge. Je me souviens d'une patiente dont je me suis occupé, qui fait une TS, qui avait des gosses, tu vois. Première chose qu'on lui dit à son réveil, patiente extrêmement sensible, absolument pas psychotique, hein, absolument pas folle, juste traumatisée, hein, même polytraumatisée par un parcours de vie, voilà. Première chose que la psychiatre lui dit à son réveil, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas pensé à vos enfants, tu vois. Bon, je, quand quelqu'un qui a le pouvoir énonce ça, ça peut pas être sans effet sur l'équipe elle-même. Sachant encore une fois que dans toutes les réunions, les centaines de réunions auxquelles j'ai assisté, la parole n'était pas prise par les infirmiers, pas prise par les aides soignantes. Il y avait une sorte de terreur, tu vois, qui était. Bon. Et puis, alors, donc, on ne peut pas écouter les patients dans un tel contexte. Et puis surtout, tu as cette présence-là qui est absolument dévastatrice du management.
Oui.
Alors vraiment, les pressions managériales, alors à la fois épistémologiquement nulles, je veux dire absolument ineptes, parce qu'en fait, le corpus managérial, c'est bon, ne désigne et ne signifie rien dans ses fondations, mais surtout d'une agressivité invraisemblable. Hein. Et notamment, là, j'ai en tête ce qu'on appelle la démarche qualité, tu vois, la certification, tout ce qui vient de l'HAS, c'est-à-dire le moment où tout d'un coup, tout le service se met au garde à vous, psychiatre y compris, chef de service y compris, et psychologue y compris, tout le monde est aux ordres, tu vois, il faut rendre présentable le service, tu vois, là, pour l'accréditation, blabla. Et là, si tu veux, le patient, il est néantisé, quoi, tu vois. Ce qui compte, c'est... Alors, voilà, ce qui compte, c'est la... Mais alors... C'est l'accréditation, etc. Et la démarche qualité, cette espèce de merde, tu vois, qui consiste... Où t'as la 4 sub du service qui vient, t'as l'impression que... Enfin, vraiment, elle est... C'est, je sais pas comment te dire, c'est... Elle déboule, c'est le ministre de l'Intérieur, quoi. Elle humilie les infirmiers, tout le personnel médical, paramédical est humilié, tu vois. C'est-à-dire que...
Ça a lieu...
Il faut faire de la qualité.
Démarche qualité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est... Une vérification qui est faite.
Oui, vérification.
Tous les ans, c'est
tu
ça.
Tu vois. Alors, les dossiers, il faut tout rentrer dans les dossiers. Y a, tu vois, c'est tout un truc, tout un vernis, tu vois, pour que le service soit présentable, pour qu'il ait l'air standard. Tout doit être standardisé, ouais. Etc. Mais si tu veux, le simple...
Une belle façade.
La simple désignation démarche qualité est en soi humiliante, parce que oui. Ça suppose déjà... Ça suppose qu'on fait de la merde, tu vois, quand la personne descend et qu'elle fustige les infirmiers et les aides-soignants qui sont là... ça veut dire, tu vois... Et puis... Bon, c'est. Et puis il faut voir ce qu'ils appellent qualité, tu vois. Bon, deuxième chose, donc cette pression-là qui fait que pendant tout le temps de la certification, je me souviens de la chef de pôle, enfin, je vais dire, hors d'elle, agressive, enfin bref. Tu as l'évaluation annuelle, hein, tu vois, la fameuse évaluation individuelle. Alors ça, c'est, je pense que d'autres que moi le diraient, raconteraient plus en détail l'horreur que ça suppose en termes d'humiliation subjective. C'est censé, par exemple, mesurer, à travers des items complètement cons, mesurer, hein, parce que c'est le chronomètre, hein, le temps et la mesure, enfin, tu vois, c'est ça le symbole du manager. C'est censé mesurer le degré d'implication dans le service du travail, à travers, par exemple, tes fringues, ta ponctualité, la manière dont tu te présentes, tu vois. Mais bullshit, déjà, t'es jamais évalué par la personne qui te voit au jour le jour. Et puis, comment on peut mesurer, par exemple, ce que tu vis le soir chez toi quand tu rentres, tu vois. Mais... Cassant les logiques syndicales, ça fonctionne parfaitement.
Voilà.
Tu vois, t'es convoqué et puis t'as une note. Tu vois. Mais oui. C'est stupéfiant de voir. Enfin, moi, j'ai peut-être parce que bon, j'ai pas vu beaucoup d'anarchistes dans l'hôpital. Tu vois, mais de voir à quel point ça fonctionne, ça terrorise. Et puis alors les gens, quand ils ont une bonne note, sont contents. Tu vois. Bon, c'était. Alors, ce qui fait qu'on arrive, oui, très bien, ce qu'on pourrait appeler une cantophrénie. Tu vois, un culte de la mesure et de la quantité.
D'accord.
Voilà. Oui. Démarche qualité qui ne débouche que sur un culte de la quantité. Comme tu t'es souvent très agressif.
Oui, ça fait penser au taylorisme et ce dont parle Daniel Dinhart dans un livre qu'elle avait. C'était quoi déjà ? C'était. La comédie humaine du travail.
Exactement.
Voilà, un taylorisme, un management. Taylorisme et management moderne, même combat. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement le taylorisme, bon, à l'époque de Taylor, mais il y a eu en plus aujourd'hui un phénomène qui est celui de la psychologisation des personnes, des individus, non pas pour leur développement. Personnel, on va dire, mais au contraire pour une aliénation encore plus forte.
Oui. Le lien de subordination est accru. Oui. Ouais, les analyses de Diane Lienhardt m'ont énormément aidé à comprendre aussi comment les fondations. Je les trouve très précises et très très précieuses, vraiment vraiment très très intéressantes. Oui, effectivement, il y a ça. Et puis, alors tout ce qu'elle dit aussi sur Ford par la suite.
Oui.
Mais oui, oui. Alors, elle, bon, voilà. Alors.
Tout bah, y on, est, ouais. On vous recommande l'interview qu'elle fait à Mediapart, la boîte à idées, sur YouTube. Voilà.
Oui, alors, je crois qu'un des effets, en tout cas là, je parle vraiment de ce que j'ai vu en psychiatrie, hein, c'est vraiment le, bon, alors, la pensée morcelée, l'atomisation, tu vois, de la pensée. C'est-à-dire que je crois qu'elle évoque ça à un moment donné à propos de France Télécom, Daniel Linhart, le fait qu'un manager lui avait dit « Mais ce qu'on fabrique, c'est de l'amnésie, en secouant le cocotier tout le temps. Produire de l'instabilité sans arrêt, désordre, tu vois. Quelque chose qui fait que la pensée est court-circuitée à un certain moment. C'est-à-dire produire de l'amnésie, c'est-à-dire empêcher les salariés de se souvenir quelles étaient autrefois leurs conditions de travail, tu vois, à travers le mouvement permanent. » Mais effectivement, c'est produire du stress. En tout cas, ça m'a paru être un management par le stress que j'ai vu. C'est que j'ai vraiment. Mais alors, ce qui est fâcheux, parce que je n'ai jamais rien attendu de d'un service RH, tu vois, ça ne me surprend pas. En revanche, mes collègues psy, qui avaient pour certains beaucoup, par exemple mon chef de service là, ex-chef de service, est psychiatre, chef de service, et il est analyste à Paris par ailleurs. C'est ce qui m'a surpris, ce que je ne me remets pas. C'est comment certains collègues, si tu veux, se sont engouffrés là-dedans, tu vois, c'est-à-dire, c'est la, pour moi, c'était une espèce de trahison absolue, c'était sur le plan épistémique, c'était que, putain, merde, vous, tu vois, et l'analyse là-dedans, enfin, tu vois, eh bien, un jour, ce que m'a dit le chef de service lors d'une de mes évaluations désastreuses, c'est que, par exemple, Lacan bossait, s'intéressait beaucoup, voilà, la cybernétique, et que sans doute aujourd'hui, Lacan n'aurait pas désavoué la remédiation cognitive. Car en 2020, ce qu'on m'a dit, c'est que j'étais plus à la page. On m'a dit, écoute, là, tu comprends, voilà, la psychanalyse c'est fini, blabla, maintenant, place à la remédiation cognitive. Bon, lui est analyste par ailleurs, il est psychiatre et analyste. Mais enfin, il m'a dit, place à la remédiation cognitive. Donc lui aussi, visiblement, s'aligne sur les directives managériales. Donc j'ai demandé quelle était pour lui la distinction. Il m'a dit, bah, c'est la resocialisation. Mais tu vois, toute cette novlangue à la con, tu vois, démarche qualité, resocialisation, être proactif. Alors je lui ai demandé en quoi la resocialisation n'était pas contenue dans le lien thérapeutique, tu vois, tout simplement. Bon, bref, c'est une question qu'il ne faut pas poser. Donc, pour dire Ferenczi, service Ferenczi, bon, bah, c'est orwellien, hein, c'est pas un lieu où il y a de l'empathie, c'est un lieu où on souffre. Mais il se trouve que j'ai quelques copains, copines qui bossent dans d'autres structures hospitalières où la psychiatrie va aussi mal. Hein. Donc j'ai l'impression que la vitesse, cette turbopsychiatrie, est absolument catastrophique. Et je ne sais pas, à vrai dire, aujourd'hui, à moins d'une pratique révolutionnaire constante, d'une micro-résistance qui se ferait localement à chaque fois, je ne vois pas comment s'opposer à ce mouvement-là. Je vais recommencer, si tu veux, par le simple outil théorique qui serait, par exemple, la psychanalyse, résister. Ça ne suffit plus, si tu veux. Il fut un temps, je ne sais pas, j'imagine que peut-être que dans les années 20, je n'en sais rien, tu vois. Peut-être qu'au temps de Ferenczi, peut-être. Peut-être qu'à cette époque-là, je veux dire, être analyste, c'était vrai, ça voulait dire quelque chose. Faisons cette hypothèse. Bon, c'est sans doute un peu simplificateur. Sans doute que du temps de Saint-Alban, tu vois, pendant la guerre, là, Toscaïès, tu vois, Gentis qui institue le droit de vagabondage, ça voulait dire aussi quelque chose d'être analyste, tu vois, en psychiatrie. En tout cas, le politique, en tout cas le révolutionnaire, tu vois, et le soin, c'était pas quelque chose qui était antithétique. Aujourd'hui, ça veut plus rien dire, tu vois. Là, c'est ce qui a été douloureux pour moi. J'ai l'impression que ce qui a, si je résumais ces 12 dernières années, ce que j'ai, mon trajet là-bas dans cet hosto où je ne suis plus, c'est que c'est la peur.
Oui.
C'est la peur qui dominait, quoi. C'est-à-dire que la peur du côté des soignants qui flippaient, on se demande pourquoi. Beaucoup étaient fonctionnaires, hein, tu vois, étaient bon. Bon, j'ai pas été fonctionnaire parce que c'était sur dossier, donc j'étais cramé. Mais si tu veux, les infirmiers étaient titulaires, donc c'était quand même protégé. Mais quand même la peur, tu vois. Donc un espèce d'écrasement, une abrasion comme ça de la subjectivité, de la capacité critique. Etc. La peur également du, et surtout du, et là j'insiste, du côté des patients, des patientes. La terreur, ce que j'ai vu, c'est des patientes arrivant dans les services de psychiatrie. Il se trouve que j'en ai reçu énormément après au CMP, quand ils sortaient, elles sortaient d'hospitalisation, mais me racontant l'horreur de ce qu'avait été l'hospitalisation. C'est-à-dire que moi, je bossais dans cet hosto, là, à Ferenzi. C'est un des lieux les plus sinistres. Enfin, je veux dire, beaucoup me disaient, par exemple, j'ai eu quelques patients qui avaient fait de la tôle. Ils me disaient, mais je préférais la tôle, quoi. Je veux dire, là, mais c'était... Je sais pas, et je me demande, est-ce qu'il faisait exprès pour rendre le lieu aussi laid, tu vois, c'est, mais je sais pas, c'était vraiment, enfin, des murs, et c'était d'une saleté, aucune intimité, l'intimité psychosexuelle, tu pouvais rentrer, sortir dans les chambres, c'était absolument effractant tout le temps, je me souviens de beaucoup de patientes, beaucoup de femmes, tu vois, évidemment, beaucoup de femmes qui arrivaient, qui étaient. Alors, je rejoins les analyses de Foucault qui dit que si tu veux que le sexuel ne se limite pas à la conjugalité, ni même à la génitalité, le sexuel existe également dans la manière dont un bureaucrate touche ses dossiers, dont un flic te palpe en manif. Bah, on pourrait dire dont un infirmier ou un psychiatre, ou un infirmier aux ordres d'un psychiatre, dessape une patiente, la regarde. Tu vois, le regard, tu vois, qui est censé être un regard scientifique, qui est objectif, là. Rien du tout, tu vois. On regarde l'autre, tu vois. Donc l'autre ne veut pas être regardé, il est regardé. Donc il y a quelque chose de très prédateur, tu vois. Oui. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est une terreur. J'ai pas vu un seul patient, et j'en ai vu beaucoup, tu vois, à l'intra-hospitalier, en secteur fermé. J'en ai pas vu une seule, me dire que ça avait été fun, quoi, tu vois. Que ça l'avait sauvé, l'hospitalisation. Ce qu'ils ont vu, ils étaient traumatisés. Donc on parlait d'iatrogénèse une fois. C'est-à-dire les pathologies qui sont amplifié même, enfin l'état général qui est l'état d'angoisse par exemple, l'état traumatique qui est amplifié par l'hospitalisation. Ce qui fait que quand tu leur dis j'ai l'impression que des fois on revient aux lettres de cachet, hein, tu vois. C'est-à-dire les patients qui vivent après dans la terreur qu'on les réhospitalise, quoi, tu vois. Donc ce gouvernement par la peur, gouvernementalité, cette gouvernementalité psychiatrique par la peur, me paraît quelque chose d'insuffisamment examiné actuellement.
D'accord. Oui.
Par ailleurs, c'est quand même une chose, quid au niveau du soin lui-même, strictement la psychiatrique, puisqu'en fait, on demande la plupart du temps aux psychologues de valider le consensus nosographique quand il y a un doute, par exemple, en faisant passer un test. Mais si tu veux, moi ce que j'ai vu surtout, c'est que c'est le jeu des essais et des erreurs, hein, quand on était en réunion. Bon, en gros, le psychiatre est là, et puis on va regarder le dossier, tu vois, bon. Et puis on va juste regarder, si tu veux, si les doses de Xéplion, de Xeroquel, de Zyprexa, d'Aldol, faut les monter ou les baisser, tu vois, c'est plutôt ça. Le patient va mal, bon, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les doses de neuroleptiques ou on le baisse? Bon, je te donne un exemple, une fois une patiente arrive dans un état pareil, de détresse, très intense. On lui file une dose de risperdal, de Zyprexa, extrêmement massive, tu vois. Bon, elle prend 30 kilos en 3 semaines, 1 mois. J'exagère peut-être un peu, mais disons peut-être en 2 mois. Bon. Tout d'un coup, elle déclenche. Elles se sont persécutées. Elle déclenche un épisode qui a été jugé délirant, qui pour moi ne l'est pas. C'est-à-dire qu'attaquée dans l'image de soi, elle commence à présenter tous les signes d'un caractère qui est désigné comme paranoïaque. Elle a l'impression qu'on est en train de l'empoisonner, de la détruire, qu'on a attaqué son corps. C'est comme ça, véritablement, qu'en réunion de synthèse, on a parlé de cette femme, que je suivais. Hein. 30 kilos, tu vois. Je mets au défi n'importe lequel de mes collègues de l'époque, tu vois, de s'en sortir, d'être pacifié après avoir été shooté comme ça. C'est ça qu'ils ont appelé. Parce que bon, les effets secondaires des médocs, tu vois, extinction de la libido, alopécie, troubles hépatiques, prise de poids, bon, sont jamais questionnés, dyskinésie. Bon, juste dans l'image de soi, elle est anéantie, elle est détruite, quoi. Comment elle serait pas en colère? Mais ça n'est pas questionné. C'est-à-dire le fait, bon, c'est comme les électrochocs encore pratiqués, pas dans l'hôpital où j'étais, mais enfin, c'est encore pratiqué sous la désignation subtile de sismothérapie. Bon, mais je veux dire, Racamier disait quelque part en 73, je crois, que fallait toujours se demander si, par exemple, il n'y avait pas, par exemple, quand un patient ne répondait plus à la thérapeutique et que, par exemple, on lui indiquait, on prescrivait des électrochocs, de la sismothérapie ou un passage à l'acte contre-transférentiel du côté du psychiatre lui-même, tu vois. C'est-à-dire que, je dirais Camier, Bécard ou Dietkin, je ne sais plus lequel avait dit ça, mais c'était très pertinent. C'est-à-dire que cette dimension agressive, si tu veux, du soignant, du médecin, qui prescrit quand le patient résiste, n'est jamais questionnée. Elle l'était en 73, elle devrait l'être aujourd'hui, elle ne l'est pas.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire, c'est...
D'ailleurs, tu avais un petit document là, un petit document de l'époque de Esquirol.
Voilà, alors je voulais terminer par ça. Exactement. Alors, Esquirol, donc psychiatre qui a donné son nom à un hôpital qui, je crois, qui est vers le Kremlin-Bicêtre. Donc, psychiatre qui fait partie de la grande école. Tu vois, il y a Esquirol, Clérambeau, Sérieux, Capgras. Esquirol écrit un traité de la manie. Traité de la manie, donc la manie, donc un désordre de l'humeur qui se caractérise par une élévation significative, tu vois, des affects, de la pensée, avec une accélération de la pensée.
On parlait de la crise maniaque.
La crise maniaque, tu vois. Bon, il écrit un traité de la manie en 1818. Donc Donc il énonce tout un tas de cas. Et sur la fin, alors je vais citer juste un cas. Voilà. Là, on est page 217 de son traité de la manie, donc 1818. Il dit « Cette femme, âgée de 26 ans, d'un tempérament lymphatique, devint maniaque au mois d'avril 1823. » Alors, je m'excuse, j'ai dit le traité de 1818, mais en fait... son texte date de 1838, hein, d'accord. Donc, âgée de 26 ans d'un tempérament lymphatique, elle devient maniaque, on veut dire excitée, au mois d'avril 1823. Elle est saignée et baignée chez elle, sans succès. Elle entre à la Salpêtrière le 26 mai suivant, dans un état de manie, avec fureur et agitation que rien ne peut calmer. Au mois d'octobre, j'applique le cautère actuel à la nuque, donc un fer rouge. Les préparatifs de cette opération l'agitent beaucoup. À peine le fer rouge est-il appliqué à la nuque, qu'à ses cris et à son agitation succède un instant de silence. Puis, elle verse un torrent de larmes, et depuis lors, elle fait chaque jour des progrès vers la guérison, qui est complète au bout de 2 semaines.
Oui.
Voilà. On va dire aujourd'hui, on dirait qu'elle est stabilisée. Tu
oui,
vois
oui, oui, oui. Ça préfigure aussi les pratiques des aliénistes racontées par Bernard de Fréminville dans La raison du plus fort.
Oui, ouais, tout à fait.
Eh bien, oui. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage.
Ouais, merci à toi.
Daniel, tu nous as montré toutes ces... Donc c'est ce management pathogène en quelque sorte,
certes,
dans les institutions psychiatriques. Et eh bien, nous allons vous annoncer, faire deux annonces. Il y aura un tour du Vercors. Ça s'appelle Dinguerie, un tour du Vercors pour partager autour de la santé mentale. Donc du 31 mai au 7 juin. Donc voici la démarche. On voulait faire des petites fêtes et échanger sur ce qui nous tient à cœur, sur ce qui prend de la place dans nos vies. On voulait soutenir une chouette revue, Soin, alors on fait une tournée. Il nous paraît important de visibiliser les souffrances psychiques que nous ou nos proches traversent parfois. C'est présent dans nos quotidiens et c'est difficile de cohabiter avec un monde qui refuse ou réprime les fragilités, stigmatise les décrochages, manque de mots et de récits pour faire avec et d'imagination pour desserrer les étaux. Usagères et usagers de la psychiatrie ou non, nous sommes tous et toutes concernés par la santé mentale. Casser ce tabou et parler des ombres, pour nous c'est vital. Mutualiser ces bouts de nos réalités en dehors des espaces intimes ou médicaux, en dehors des urgences, ça peut nous faire du bien. À ces soirées, vous trouverez donc un accueil à partir de 17h30, un petit info-kiosque en continu, des brochures sur nos approches politiques des questions psychologiques ou psychiatriques. À 18h30, un temps d'échange, une discussion dans un cadre proposé pour échanger sur nos expériences, réflexions, ressources. 20h, un bon repas à prix libre avec des fraîcheurs et des saveurs pour les corps. En continu, un bar sans ou avec un peu d'alcool. Et un espace calme où on pourra aller bouquiner, respirer, se reposer. 21h30, un concert du groupe Touffu Trouble, du post-rock environ. C'est l'alliance d'un violoncelle électrique, ses pédales et d'une batterie acoustique. Et ça se finit à 23h. Alors, oui, c'est un sujet qui peut être remuant. Si vous vous sentez particulièrement vulnérable avec ces questions en ce moment, c'est chouette de venir entourer et de se poser la question si c'est le bon moment pour vous d'échanger collectivement sur ce sujet. Nous ouvrons un espace convivial pour pouvoir mettre en commun des réflexions et des imaginaires puisés de nos expériences. Nous n'avons pas de solution particulière et tentons simplement d'avancer dans le grand mystère des humains et des humaines. Voilà, et donc c'est aussi... Il y a aussi soirée de soutien. S'il y a des bénéfices, l'argent permettrait de soutenir Soin, un journal de réflexion sur le soin psychiatrique qui a besoin d'argent pour continuer à exister gratuitement. Voir le site https://soinsoin.fr. Projet du journal, le but est clairement de faire bouger les choses, ou en tout cas de participer aux changements qui s'opèrent dans le courant de la psychiatrie aujourd'hui en alertant les institutions sur ce qu'il se passe réellement de délétère pour les patients et les patientes. La plupart des personnes qui écrivent dans ce journal sont à la fois des psychiatres, sociologues, médiateurs de santé, éducateurs, journalistes, dessinateurs, mais aussi des personnes touchées par la souffrance psychique. Ainsi, leur discours de professionnel est renforcé par une expérience personnelle, témoignant plus justement des fonctionnements et dysfonctionnements de la psychiatrie en France. L'objectif est de diffuser gratuitement cette revue au plus grand nombre de personnes en souffrance psychologique, dans les établissements de soins et en dehors. Merci. Au plaisir de vous y voir, de lire, de parler ou de danser ou grignoter ensemble. Alors, donc, ce petit module hein, qui nous venons de décrire aura lieu le 31 mai 2024 à la recyclerie La Volte, à La Voulte sur Rhône, dans le 07. Alors, tous ont accès au PMR. Hein. 2 juin à la MJC Nini Chaise, à Aoust sur Sie, S-Y-E. 26, le département 26. 3 juin, Blaisance Café à Trescléou, dans le 05. 6 juin, centre LGBTI Cigale à Grenoble, 38. Et 7 juin, Le Poulailler à Saint-Just-de-Clay, dans le 38 aussi. Voilà pour ce tour du Vercors pour partager autour de la santé mentale. Voici un autre annonce. Ça s'appelle contenir la contention. Non, oui. La contention à l'hôpital, journée d'information et de rencontre pour un soin psy sans contrainte, samedi 8 juin à la Friche Lamartine, Lyon 7e, 11h-21h. Samedi 8 juin. On entend dans les hôpitaux et les cabinets ministériels savoir expérientiel, directive anticipée, père aidant, droit des patients. Co-construction du projet de soins, alliance thérapeutique, décret pour humaniser les chambres d'isolement, etc. etc. On a l'impression que nous n'avons jamais été aussi avancés dans la considération des patients. Et pourtant, dans un contexte de sous-effectif et de pression à l'efficacité, les pratiques de contention en milieu hospitalier ne cessent d'augmenter. Elles traumatisent encore toujours plus de personnes soignées, tout en habituant les soignants à une culture de l'entrave. Cela malgré les alertes récurrentes du contrôleur général des lieux de privation de liberté et les scandales médiatiques. Certains et certaines affirment que cette culture de l'entrave est indissociable de la culture psychiatrique. D'autres expliquent qu'elle trouve sa source ou son expansion dans les restrictions budgétaires, dans les logiques managériales, dans la marchandisation du soin et dans la destruction du service public de la santé. Chercher à comprendre d'où vient cette culture de l'entrave est nécessaire, mais cela ne suffit pas pour la changer. Alors comment éviter isolement et contention ? Pour avancer dans ce sens, nous saisissons du livre « Abolir la contention » du psychiatre Mathieu Bellassène pour organiser le samedi 8 juin, de 15h à 18h, une rencontre consacrée aux pratiques de contention dans les milieux de soins. Cette journée aura lieu sans condition d'accès à la Friche Lamartine, dans leur nouveau bâtiment aux 4 rues du Commandant Ayas, Lyon 7e. Et voilà, donc il y a aussi l'email abolirlacontention@protonmail.com. Je répète, abolirlacontention@protonmail.com. Et bien, ainsi se termine l'entonnoir pour cette semaine. Nous vous disons à la semaine prochaine. Et pour la suite du programme, eh bien c'est Un rayon de soleil, l'émission de Radio Libertaire Méditerranée, animée par Fabrice. Alors, apparemment ça ne fonctionne. Ah si, c'est parti.
Soleil.
Tu que sais pour
Bonjour à tous, bienvenue dans Rayon de Soleil, l'émission du sud de la France, et sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. 89.4 sur Paris et la région parisienne, et partout dans le monde, www.radio-libertaire.org. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous passer un entretien que fait Jean-Michel Dufaize, un historien de Belgique, avec un militant libertaire. Et le sujet qui le traite, c'est « Qu'est-ce que l'anarchisme au XXIe siècle ?» C'est un échange qui durera deux émissions, parce qu'ils ont été bavards et que c'est très intéressant. Et donc, première partie aujourd'hui, deuxième partie dans une prochaine émission d'Un Rayon de Soleil. On commence tout de suite un petit peu avec de la musique, et puis on entrecoupera régulièrement cette expérience.